Carnet de campagne, bonjour. Nous ouvrons une semaine consacrée au Puy-de-Dôme. À chaque fois qu'on entre dans ce décor naturel, il n'y a que du respect. La chaîne des puits, les monts Dôme, comme on les appelle, la faille de Limagne, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, qui donne le ton, une leçon d'histoire de 95 000 années pour les plus anciens de ces 80 puits, tous aussi originaux les uns que les autres. S'il y a les monts Dôme, de l'autre côté, il y a la COP des Dômes à Clermont-Ferrand, nouveau supermarché coopératif qui s'ajoute à la liste bientôt longue de ces espaces d'alimentation de proximité gérés par les consommateurs coopérateurs. Jean-Jacques Bravard, membre du collectif de coordination, est notre premier invité. Les troubles de l'apprentissage sont nombreux, très pénalisants pour ceux qui les subissent. On les réunit sous le nom de DYS, D-Y-S, dysfonctionnement, commencé par la dyslexie, pour faire entendre les besoins, d'aider ces personnes. Une association a vu le jour, Facteur 10, présidé par Sylvie Pradier, seconde invitée.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Jacques Bravard, bonjour.
Bonjour.
Jean-Jacques, bénévole depuis le début d'un projet qui a pris forme très rapidement, et là vous m'épatez, puisque votre association est née en juin 2017, les Amis de la COP des Dômes, avec à Clermont-Ferrand, avec le projet d'ouvrir un magasin coopératif et participatif, encore un, et bienvenue. Le groupement d'achat dans la foulée, première étape, pendant quelques mois, et le 17 novembre dernier, vous avez ouvert, enfin, rapidement, votre magasin coopératif et participatif.
Absolument.
Et comment vous expliquez cette rapidité, efficacité d'exécution ?
On était même un petit peu surpris nous-mêmes. Mais on avait fait un projet avec des étapes, avec des dates. On avait une équipe qui était motivée. Et puis, on a trouvé assez rapidement un local, parce que c'est quand même le point essentiel. En plus, on était très exigeants sur la qualité du local, l'emplacement du local. Les planètes se sont bien alignées. Voilà.
Le principe, c'est de participer à la gestion et à l'organisation et aux décisions du fonctionnement du magasin. Il y a un montant d'adhésion pour les petits budgets 10 euros, l'autre autour de 25 euros. Et puis on donne quelques heures par mois à l'organisation de ce magasin coopératif et participatif. La question est toujours la même, mais elle est quand même essentielle. Comment on s'approvisionne et auprès de qui ? C'est un vrai travail.
Alors, c'est le travail essentiel, puisqu'en fait, il faut avant tout trouver des producteurs, des maraîchers, puisque c'est essentiellement des produits alimentaires. Il y a aussi du cosmétique, des produits d'entretien, mais c'est essentiellement des produits alimentaires. Donc, trouver localement, dénicher des producteurs. Et en fait, c'est là que le projet est riche, c'est que finalement, on arrive à trouver localement plein de produits qu'on découvre, en fait. Mmh. Alors, bien sûr, on est dans une terre de campagne, l'Auvergne. Donc, tous les produits laitiers, on les a finalement dans un rayon de 30 ou 50 kilomètres à la ronde. Toute la viande, on l'a dans un rayon de 30 ou 50 kilomètres. Bien entendu, malgré le réchauffement climatique, les bananes ne poussent pas en Auvergne. Donc, si on veut des bananes dans le magasin, il faut les prendre ailleurs.
Voilà.
C'est là qu'il y a la notion de commerce équitable pour les produits comme le thé, comme le café, comme certains fruits exotiques, qu'on limite au maximum parce que un des aspects du projet, c'est aussi l'éducation populaire et dire, bah, écoutez, on mange du raisin au mois de septembre et on n'aura pas du raisin du Chili à la COP des Dômes. Voilà.
L'objectif de ces magasins coopératifs participatifs, comme on a parlé longtemps de consommateurs, assument parfaitement ce rôle de consommateurs. Mais est-ce que l'exercice n'est pas risqué, Jean-Jacques ? J'imagine aujourd'hui un responsable d'une grande enseigne qui dit finalement, ce modèle, il est pas mal, il est intéressant. Moi, j'ai envie de prendre une part du marché et je vais créer un super marché coopératif et participatif, c'est-à-dire à grande échelle. C'est possible, ça ?
Oui, c'est possible. Alors après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas de but lucratif. Alors que ce directeur d'une grande enseigne, peut-être qu'il va, et à la limite, tant mieux, si lui aussi fait de l'éducation populaire, si lui aussi met sur le marché des produits bio, des produits de qualité, des produits qui respectent tout ce qu'on cherche. Sauf que ils sont là pour faire du fric. C'est ça, je pense, c'est ça la différence. Mmh. Mais à la limite, nous, on n'a pas de concurrent. Notre objectif, c'est que les gens mange de manière plus saine aujourd'hui qu'hier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et qu'on rende accessible des produits au plus grand nombre, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les produits bio sont quand même plus chers que... Voilà.
Ouais. Et Jean-Jacques, on a le droit de tester le magasin avant d'adhérer ?
Absolument. Les portes sont ouvertes, sont grandes ouvertes. Les gens peuvent venir déjà découvrir, faire leurs courses, faire voir une fois ou deux fois. Mais après, bien entendu, le principe, il faut adhérer à l'association. Sinon, le principe s'écroule un jour ou l'autre. Quoi.
Voilà. Exactement. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Hein. Vous n'êtes pas loin des 500 adhérents, mais s'il y en a quelques centaines qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Pour trouver la COP des Dômes, si vous habitez à Clermont ou pas loin dans l'agglomération, le point de chute, c'est l'arrêt de tram Les Vergnes. C'est 103 rue d'Autribe.
C'est le terminus du tram à Clermont, au côté nord. C'est très facile à trouver.
Voilà, on ne peut pas le manquer. copdesdomes.fr pour l'adresse. Merci Jean-Jacques.
Alors, voilà, je vous en prie.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Avant de rejoindre Sylvie Pradier, toujours dans le Puy-de-Dôme, je rappelle qu'au mois de mai, nous serons en Savoie, puis ensuite en Haute-Savoie, et nous aborderons la Normandie par l'intermédiaire du Calvados et de la Seine-Maritime. On attend toujours vos courriers. Merci beaucoup au passage. Sylvie Pradier, donc, bonjour.
Bonjour.
Merci Sylvie de nous présenter l'association que vous présidez, parce qu'on va découvrir avec vous un nombre incalculable de troubles de l'apprentissage, des porteurs de dys, comme on dit, D-Y-S, des dysfonctionnements. Alors on connaît la dyslexie, mais il y a la dysgraphie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysphasie, la dysorthographie. Et effectivement, ces troubles sont très nombreux.
Oui, ils prennent des formes diverses. Ce sont de véritables empêchements à automatiser les apprentissages. Donc avoir une lecture automatisée pour la dyslexie, une orthographe automatisée pour la dysorthographie. L'écriture, le geste d'écriture pour la dysgraphie, ceux-là sont assez simples à comprendre. La dysphasie, c'est arriver à verbaliser sa pensée de façon correcte, qui n'est pas simple et pas évidente, ce qui, pour nous, ne nous demande pas d'effort, c'est automatique. Et pour les dyspraxies, ce sont tout ce qui concerne les gestes moteurs, le repère dans l'espace, la motricité fine, la planification, l'organisation de gestes. Faire ses lacets devient très compliqué pour un enfant dyspraxique.
Ouais. Votre association s'appelle F-Acteur 10.
Facteur 10, oui.
Et on dit facteur 10, évidemment. Voilà. Pour faire comprendre tous ces troubles qui ralentissent la scolarisation, la professionnalisation des uns et des autres. Pourtant, il y a aujourd'hui des méthodes pour limiter les effets de ces troubles.
Oui, on a des thérapeutes qui interviennent. On a les orthophonistes pour tout ce qui est les troubles du langage. Nous avons les psychomotriciens et ergothérapeutes pour ce qui est des troubles de la motricité. Les orthoptistes interviennent aussi sur les troubles visio-spatiales. Mais pour autant, l'organisation du dépistage et de la prise en charge et coordination des soins n'est pas efficace en France.
Exemple, à l'école, il n'y a pas de repérage de ces troubles ?
Non. On peut avoir des enseignants qui constatent une difficulté, qui vont en parler aux familles, qui vont se retourner vers un orthophoniste si le trouble est du langage pour un bilan, un diagnostic, ou un médecin généraliste. Aujourd'hui, les médecins généralistes ne sont pas formés. Quant aux enseignants, c'est aussi très peu d'heures dans leur cursus de formation, ce qui fait qu'on a des gens à qui on demande de dépister, mais qui ne connaissent pas vraiment les troubles, pas exactement les symptômes, les signes qui devraient alerter.
Et alors, quelle responsabilité donnez-vous à votre association vis-à-vis de tous ces, ces catégories de santé, d'enseignement et aussi des parents ?
Notre action, la première, est d'accompagner les familles et les porteurs en ayant un lieu d'écoute. On peut échanger entre parents. C'est toujours un moment de soulagement. On peut les accompagner aussi pour comprendre un peu les aménagements scolaires qui sont mis pour les dossiers MDPH, pour éventuellement les dossiers de reconnaissance qualité en travailleur handicapé et l'accompagnement après dans l'insertion professionnelle. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de développer. Nous avons aussi un rôle d'animation et de sensibilisation, c'est-à-dire que nous allons auprès du grand public. Nous pouvons aller dans des associations à la demande, faire de la formation, de la sensibilisation. Nous le faisons aussi auprès de formations de travailleurs sociaux. Et nous sommes fondateurs d'un réseau départemental qui s'appelle Récital 63, qui regroupe 3 associations de familles, des structures médico-sociales et des professionnels pour essayer justement d'améliorer ce dépistage et ce diagnostic et l'accompagnement des familles dans le choix des stratégies thérapeutiques.
Et vous aviez participé à la rédaction d'un livre blanc qui a fait que les troubles 10 ont été déclarés grande cause régionale en 2017. Mais je vois qu'il y a aussi une fédération française des 10.
Oui, tout à fait, qui regroupe des associations de familles qui travaillent elles aussi à l'échelle nationale sur la reconnaissance de ces troubles et la mise en place d'aides et d'accompagnement, notamment sur le permis de conduire. C'est intégrer une personne 10 dans l'entreprise, c'est compliqué parfois quand il y a une personne qui ne maîtrise pas l'orthographe. Ça n'empêche pas le travail, mais ça nécessite d'adapter certaines procédures et un accompagnement un peu différent.
Et vous nous annoncez, Sylvie, donc les journées d'information, le temps des 10 2019, ascenseur vers l'autonomie, 1er et 2 juin, à l'espace loisir d'EDA.
Voilà, c'est un week-end que nous consacrons chaque année aux troubles 10 et nous proposons effectivement une exposition que nous avons créée avec une neuropédiatre pour expliquer aux familles quel pourrait être l'accompagnement idéal et ce qu'ils sont en droit d'attendre d'un médecin et des orthophonistes pour accompagner au mieux leur enfant vers l'autonomie, parce que ce qui est important pour une personne qui a un handicap, c'est de pouvoir être autonome. Voilà.
Notez les dates, 1er et 2 juin à EDA, et vous avez de toute façon le lien avec l'association Facteur 10, nos pages d'émission. Merci Sylvie.
Merci.
Demain, toujours dans le Puy-de-Dôme, nous appellerons l'association Fasa Soma qui, depuis 23 ans, vient en aide aux enfants des rues de Madagascar. Puis on parlera d'un drôle de festival d'artistes francophones dans les Combrailles. Ça, c'est pour la surprise.